Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les myriades d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, je vous propose d'écouter ce que l'humain aime à regarder dans ce que l'on appelle vivant. Cette semaine, nous rejoignons Palmyre, une scientifique de l'écologie en ville. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ?
Je suis un petit être vivant de la famille des mammifères. Je me prénomme Palmyre. Mon stade de développement aujourd'hui est celui d'un jeune adulte. J'ai 26 ans. Mon habitat de vie dans lequel je me développe est celui de la zone géographique du bassin parisien. Je suis passionnée par le vivant, pas tellement notre espèce, mais plutôt toutes les autres. En particulier celles qui composent les habitats continentaux et non pas de la mer ou aquatiques. Et mon activité biologique, elle s'articule autour de cette passion du vivant. Dans mon temps libre, j'aime beaucoup lire autour de l'écologie scientifique, de nouveaux faits de la biodiversité. J'aime bien sortir pour faire des observations naturalistes, donc j'aime bien aller voir les oiseaux en particulier. Et dans le cadre de mon travail aussi, en effet, je suis écologue et je suis spécialisée dans la biodiversité urbaine. Et je travaille dans un bureau d'études qui accompagne les acteurs de l'aménagement urbain pour les aider à améliorer la qualité environnementale de leurs projets de construction ou de rénovation. Mes collègues travaillent sur les aspects énergétiques et carbone et moi sur les aspects biodiversité.
Ruby River. Dis-nous, qu'est-ce que le vivant t'inspire ? Quels mots te viennent à l'esprit ? Quelle couleur, quel goût, quelle odeur, quelle texture ?
Le vivant, pour moi, c'est surtout de la beauté et de la complexité. Pour une couleur, ce serait le vert, d'une part parce que c'est la couleur de la végétation la plupart du temps. Et la végétation, ce qui définit les habitats, c'est le support de vie de toutes les autres espèces derrière. C'est aussi le symbole de ce qui naît et de ce qui renaît, de l'espérance, de la fraîcheur. Et c'est ce que moi me fait vibrer quand je suis dans cette nature. Une odeur, ce serait une odeur de feuilles mortes et de terre un peu humide, de sous-bois qu'on pourrait sentir quand on se balade dans la forêt pendant l'automne. Que cette odeur de humus forestier, ce serait un peu le symbole de la décomposition de la matière qui permet de faire renaître d'autres espèces au printemps suivant. Ça me fait ressentir aussi la notion de cycle naturel, de cycle biogéochimique de la matière qui est support du vivant. Un son, ce serait un chant d'oiseau et en particulier un chant de mésange charbonnière ou de rouge-gorge ou de rouge-queue-noire ou encore de pouillot véloce. C'est des espèces qu'on voit souvent dans nos villes en France et qui rythme beaucoup mon quotidien. C'est un son sécurisant, qui est plein d'espoir, parce qu'on l'entend souvent à toutes les saisons. Il peut être nostalgique, peut être mélancolique, peut être joyeux, peut être surprenant. Donc c'est la vie, en fait. Le pouillot véloce, ce serait chip-chop, 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 chip-chop. Le rouge que noir, quelquefois dans son chant, il a un son un peu original de papier froissé qui ferait qui rythme le reste de son chant que je n'arriverai pas à imiter. Pour le goût, ce serait le côté acidité, acidulé d'un fruit frais qu'on cueillerait au printemps. Ça représente le vivant parce qu'à la fois ça nourrit le corps pour être vivant, mais ça nourrit aussi la tête. C'est frais, c'est de plein de couleurs aussi. Fruit du printemps et d'été sont souvent de plein de couleurs différentes. En plus, ce goût de fruits un peu acidulé, ça fait écho à des souvenirs, moi, que j'ai dans la nature, de cueillette de fruits avec ma famille, de balade dans la forêt. Une texture, ce serait une écorce sur laquelle on passerait sa main. On sent que c'est quelque chose de solide, qui est support de vie pour l'arbre, mais aussi pour d'autres espèces. C'est aussi doux au toucher, avec la mousse qui s'y développe. C'est un matériau qui vit longtemps dans la forêt et qui est support ensuite quand ça se décompose pour la vie de plein d'autres espèces, et un ressenti assez doux de sécurité, de cycle qui continue en permanence.
Cette vision du vivant que tu viens de nous décrire, comment la retransmets-tu à travers tes projets ?
Je suis une inconditionnelle admirative du vivant et c'est vraiment ce que j'essaye de retranscrire dans mes projets. J'ai envie de faire sentir aux autres et de faire ressentir dans ce que je produis l'envie de vivre avec elle, parmi les autres espèces, en harmonie avec elle, et surtout prendre une place plus sobre pour ne pas la nuire. Par exemple, dans mon travail, j'essaye d'établir un diagnostic très précis du vivant sur une parcelle de projet afin d'en définir de manière exhaustive les espèces, les fonctionnalités écologiques d'un site, dans un but vraiment derrière de bonne retranscription d'enjeux liés au vivant et de sensibilisation des acteurs d'un projet sur ce vivant pour les amener avec moi vers le besoin non pas de la protéger mais surtout de ne pas la nuire, et en reconnaissant le besoin de ne pas nuire, on protège mieux, et puis aussi de les rendre un peu plus sensibles à la beauté de la nature, qu'elle soit rare ou un peu plus commune. J'essaie de les inviter à observer, à adopter cette posture d'observation et de respect. Je peux citer un projet, par exemple, sur le bassin d'Arcachon. J'étais allée faire une visite de site pour faire un diagnostic des enjeux qu'il y avait. C'est un site assez pauvre à première vue et considéré comme très pauvre par le client parce que c'était dans une zone industrielle. Et j'y ai observé, malgré la période un peu tardive, une grande diversité d'oiseaux, dont un oiseau qui s'appelle le bruant vivi. Donc j'ai parlé de cette espèce au client qui, dans un premier temps, a rigolé, et en fait, derrière, qui m'a posé pas mal de questions sur son cycle biologique parce que c'était finalement une découverte qui attisait un peu sa curiosité. C'était un échange très surprenant et positif. Donc c'est ce genre d'échange qui donne de la motivation sur mes projets et qui me donne envie de toujours plus en faire partager, en faire découvrir aux autres, et puis de continuer à garder de la motivation dans mon travail, puisqu'on a aussi des gens qui s'y intéressent pas toujours et qui ont du mal à s'y intéresser.
À ton avis, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Je fais partie des gens qui croient de moins en moins au fait que l'humanité puisse apporter quelque chose de vivant, parce que je considère qu'on prend énormément et qu'on donne en retour très peu, ou du moins ce qu'on donne est assez négatif. On a réussi en tant qu'espèce à s'extraire des pressions évolutives naturelles, à s'extraire d'un équilibre naturel avec les autres espèces. Je suis convaincue que la chose la plus importante qu'on peut apporter et qu'il faudrait apporter en tant qu'humanité vis-à-vis des autres espèces, c'est un regard neuf et plus respectueux, bienveillant et surtout humble pour reconnaître finalement la beauté du vivant qui nous entoure et le besoin criant de ne pas nuire à ce vivant et de retrouver une place sobre, en équilibre avec le reste du vivant, en harmonie, en arrêtant de créer une pression de destruction, d'exploitation, mais plutôt une place d'échange et d'interaction avec le reste du vivant. Il suffit que l'humanité apporte un regard sobre pour qu'à nouveau la nature soit florissante, belle, et qu'on prenne place en fait dans cette nature florissante et belle. If you have ghosts,
you have everything. On va passer à la question d'actu. À l'épisode précédent, avec la feuille de chou, il était question du devenir de l'affaire du siècle. Pour rappel, le 31 décembre prochain, le délai donné à l'État français pour réparer le préjudice écologique qu'il a causé touchera à sa fin. première affaire de ce type en France, elle rassemble de nombreux organismes de protection de l'environnement, tels que Oxfam France, Greenpeace et bien d'autres. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de cette affaire ?
Ça fait écho à ce que je disais à la question d'avant. Cette affaire, elle est essentielle pour sensibiliser la population française à la place qu'on a sur Terre. Effectivement, ça parle de crise écologique de manière générale, donc il y a tous les enjeux liés à la crise de la biodiversité, mais aussi à la crise climatique. Et les deux sont intimement liés. Cette affaire du siècle a permis de donner un premier grand coup de pied dans la fourmilière en forçant certaines institutions, en particulier l'État parce que c'était le premier ciblé, mais aussi les entreprises et aussi les individus, à se questionner sur notre devenir, pas dans 200 ans, mais demain, et à se questionner sur la place que l'on doit prendre en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que communauté et surtout en tant qu'État. Par rapport au reste du vivant et à la Terre, en fait. Et comment est-ce qu'on décide d'occuper cette Terre ? Est-ce qu'on décide de continuer à l'utiliser, à l'exploiter comme on l'a fait durant ces 100 dernières années, ces 200 dernières années, et surtout les dernières décennies ? Ou est-ce qu'on décide de manière communautaire et individuelle, mais communautaire surtout, je trouve, de se replacer de manière plus sobre et de décider ensemble quelle est la trajectoire qu'on décide de prendre ? La réponse de l'État, elle peut questionner, elle doit être exemplaire pour nous, à la fois pour prendre des décisions en tant que communauté, mais aussi en tant qu'individu, pour justement retrouver cette place. Si l'État continue à ne pas suivre, comme ce qu'il fait du coup jusqu'à maintenant, ce serait de renforcer la réaction de la population vis-à-vis de l'État, dans l'idéal de reporter finalement l'État face à la justice. J'ai du mal à suivre et je suis de moins en moins les actualités sur les sujets écologiques parce que justement je suis toujours assez déçue. Mais je pense que cette affaire de tous, c'était une première action assez significative. Donc la suite, j'espère qu'elle prendra la même tournure pour mettre l'État face à ses responsabilités. Et je pense que les actions citoyennes quotidiennes qu'on peut voir, notamment avec Extinction Rebellion, par exemple, ou Dernière Rénovation, illustrent bien l'agacement que l'inaction génère. Et j'espère que des actions par ces associations continueront à se faire, parce que ça permet de montrer au moins à l'État qu'il y a une déception et une irritation qui commence à se créer. Et j'espère que l'État réagira, mais je crains qu'il ne réagisse pas ou que très peu, en fait. Tant que les politiques seront motivées par des mandats courts, une action à longue portée se fait difficilement.
Petit point agenda et influences diverses. Dis-nous, Palmyre, quel projet de recherche ou d'aménagement t'inspire ?
L'étude Grooves, G-R-O-O-V-E-S, qui a été publiée par l'ARB Île-de-France, donc l'Agence régionale pour la biodiversité. C'est une étude qui est sortie il y a moins d'un an sur l'écologie des toitures végétalisées en région Île-de-France. Et c'est une première étude en France à cette échelle parce que c'est une étude qui n'a porté que sur des toitures végétalisées, qui est un écosystème assez nouveau et qui est un écosystème qui prend toute sa place dans le milieu urbain pour la biodiversité. Et comprendre comment est-ce que ces écosystèmes s'intègrent dans la matrice urbaine, comment les espèces peuvent utiliser ces écosystèmes est primordial en fait pour les écologues en milieu urbain comme moi, parce que ça permet de pouvoir mieux accompagner les clients et pour pouvoir faire des préconisations, des recommandations de mesures sur les projets toujours plus pertinents, fort et bien écrits et bien vulgarisés. J'invite tout le monde à en prendre connaissance, du moins ceux qui sont intéressés par les enjeux de biodiversité urbaine. Plus récemment, Franck Courchamp, qui est un chercheur en écologie spécialisé dans les espèces exotiques envahissantes et les écosystèmes insulaires, donc les îles, qui est intervenu à la radio. J'ai été très touchée par ce qu'il a dit, même si c'était assez bref, je vous invite à écouter le replay de son intervention sur France Inter. Je vous invite plus largement à regarder ses ouvrages parce qu'il fait beaucoup de vulgarisation scientifique en particulier une petite série à destination de tout public qui s'appelle Une espèce à part et qui permet de re-questionner sur la place justement de l'humain. Pour 2023, ce que je vous propose à tous, c'est de prendre connaissance de l'agenda de la LPO, qui est la Ligue de protection des oiseaux, et qui fait des sorties naturalistes d'observation des oiseaux, accessibles à tout public. I feel a change on the rise. Pour tous ceux qui se poseraient la question de savoir comment prendre sa place dans cette lutte pour protéger la nature et prendre place dans ces questions de crise de la biodiversité, je vous invite à vivre la nature, parce que c'est en vivant la nature qu'on la protège le mieux. Et c'est en apprenant à vivre avec et en apprenant à la découvrir qu'on apprend en fait à s'émerveiller devant cette nature, et c'est en s'émerveillant devant la nature qu'on arrive à prendre une place de protection de cette nature. Donc finalement, la première action, c'est de la découvrir et de l'aimer. We're singing all day, you can't tame it. I
feel a change on the rise. Tu y as pêché où? Cet épisode a écouté une amoureuse du vivant à plumes et à tiges des villes prend fin. La semaine prochaine, nous engageons une épopée avec une spécialiste du parasite.
Je tremble, tremble être noyée.